RCF.
C'est Grand Angle, bonjour. Oser le pardon, c'est le thème de l'émission aujourd'hui préparée en partenariat avec la revue Croire. L'amour appelle l'amour, le pardon appelle le pardon, enseignait le pape François dans une récente catéchèse place Saint-Pierre. Pardonner, facile à dire, plus facile à dire qu'à faire. Pourtant, que seraient nos vies si nous n'étions pas capables de dépasser l'offense, la blessure? Pardonner, c'est choisir la vie. Oui, mais comment? Eh bien, on en parle avec mes invités en studio. Aujourd'hui, Sophie de Villeneuve, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef de la revue Les Cahiers Croire et du site croire.com. Le numéro de mai-juin de la revue est consacré donc au pardon, choisir la vie. Avec aussi, hein, il y a d'autres articles, il y a ce grand dossier, mais aussi un article du pape François qui a un rêve pour l'Europe, ce que vous rappelez dans votre revue. Cécilia Duterre, bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Vous êtes écrivain, auteur de romans, de biographies, notamment d'Ethyl Soum, il y a 2 ans. Vous adressiez à votre fille, à toi, ma fille, publiée aux éditions du Cerf. Aujourd'hui, c'est la figure paternelle, celle de votre père, que vous évoquez douloureusement. La loi du père est parue aux éditions du Cerf. Benoît Guillou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui rédacteur en chef de la revue Projet, dernier numéro consacré à la mobilité en Europe. Tiens, tiens, l'Europe toujours. Hein.
Voilà, par les élections.
Où allons-nous? Longtemps rédacteur en chef du journal d'Amnesty International, vous avez suivi de très près la situation de l'Afrique et du Rwanda. Vous êtes l'auteur d'un livre, « Le pardon est-il durable ? Enquête au Rwanda », paru aux éditions François Bourin. C'était en 2014 et c'est toujours d'actualité. Oser le pardon, c'est le thème du jour du Grand Angle et c'est tout de suite sur RCF.
RCF, Grand Angle, présenté par Christophe Hénin.
Sophie de Villeneuve, le pardon, un sujet, j'ai presque envie de dire, assez classique, je vais pas dire rebattu quand même, mais un sujet assez classique et pourtant toujours d'actualité.
Oui, toujours d'actualité. Vous venez d'évoquer le Rwanda et je pense qu'on va vraiment l'évoquer au cours de cette émission puisqu'il y a un anniversaire en ce moment, bien sûr, et 25 ans de ce génocide abominable. Et donc, on va voir effectivement que ce pardon revient sur le devant de la scène. Il y a aussi toutes les problèmes de la... Et ça nous a aussi beaucoup influencé, tous les problèmes de pédophilie dans l'Église, avec cette notion du pardon. Le fameux film que beaucoup ont vu, là, Grâce à Dieu, où justement l'une des victimes se demande s'il va pardonner et sa femme lui dit non parce que le pardon va t'enfermer. Cette phrase de ce film nous a beaucoup fait réfléchir aussi quand on a essayé de poser un petit peu les problèmes de ce dossier. Et puis le pardon, c'est quand même une injonction, même un commandement évangélique. Hein. Jésus nous demande de pardonner jusqu'à 77 fois 7 fois. Ça fait quand même beaucoup et on s'est vraiment demandé si c'était faisable, si c'était utopique, si vraiment le Christ avait raison de nous demander de pardonner pour surmonter la violence, en fait. C'est ça un petit peu qui nous est demandé. Voilà, donc on a essayé de répondre à cette question, toujours difficile, et aussi en donnant des pistes, parce que dans le fond, pardonner... Pardonne, c'est bien facile à dire, mais que quelquefois on a besoin d'aide. Et il existe des aides pour pardonner, se pardonner à soi-même, se pardonner intérieurement et guérir aussi quelquefois de ces blessures et de celles qu'on a subies. Voilà, on a aussi voulu faire quelque chose d'un peu pratique.
Pratique avec aussi cette promesse, hein, déjà dans le titre, le pardon c'est choisir la vie. Alors oui, effectivement, c'est plutôt attirant comme démarche, c'est pas un peu rapide?
Ah, je ne sais. Oui, ça paraît toujours un petit peu rapide de dire ça, de choisir la vie. Et pourtant, je pense que Cécilia Duterre qui est là et qui fait partie aussi du dossier puisqu'elle nous a livré son témoignage, peut-être le dira aussi à sa façon que il y a quelque chose de libérateur dans le pardon. Ça prend du temps, c'est difficile, mais voilà, peut-être qu'à un moment donné. On peut se dire, en regardant le chemin parcouru, est-ce que j'ai pardonné? Je ne sais pas, mais en tout cas, je me sens mieux. J'ai fait un chemin de guérison. Il y a dans nos témoignages des personnes qui ne disent pas qu'elles ont pardonné, mais qu'en tout cas, elles se sont peut-être réconciliées avec la personne qui les avait blessées. Voilà, chacun a son chemin à faire. Et de toute façon, c'est, je pense, quand même un chemin de libération, oui.
Le pardon, on le voit bien, est quand même au cœur aussi hein, de toutes les religions. Et vous, vous insistez notamment avec une rencontre. Vous avez un entretien avec le rabbin Yeshawa d'Alsace qui va même plus loin. Il dit « Face à la haine, il faut continuer à vivre ».
Oui, alors c'est vrai que nous avons voulu faire intervenir un rabbin, parce que quand même la notion de pardon est aussi au cœur de la
religion, juive.
De la religion juive, avec le fameux Yom Kippour, hein, sur lequel il s'attarde particulièrement et nous explique un petit peu la notion de pardon, qui est quand même assez différente de celle de notre religion chrétienne,
catholique, chrétienne.
Et pour le juif, le pardon sans condition de Jésus est difficile, beaucoup plus difficile que nous, on se l'imagine. Donc c'était bien aussi de le faire intervenir. Mais quand même, ce qu'il dit, c'est qu'il faut mettre l'offense au loin. Il a de très belles paroles hein, à la fin de cet entretien que moi que j'ai beaucoup aimé. Hein. Voilà, pour se reconstruire, il faut lâcher prise, il faut ouvrir, ne plus garder, envoyer au loin. Alors éventuellement, dit-il, on peut parler d'amour. Voilà. Et un autre mot pour le pardon, c'est slia, je prononce peut-être pas assez bien l'hébreu, qui signifie envoyer au loin. Voilà, donc envoyer au loin, est-ce qu'on en est capable? Mais je ne sais pas. Je pense que, au cours d'une vie, il faut essayer d'y arriver, en tout cas.
Ça montre aussi, et ça, plusieurs articles hein, le pointent, aussi bien les articles théologiques, hein, parce qu'il y a plusieurs sections dans ce dossier, théologique, pratique aussi, que le pardon, il est quand même lié à notre condition humaine imparfaite, à nos imperfections.
Bien sûr, parce que être blessé, être humilié, ça ne s'oublie jamais et que dans le fond, on peut toujours penser à des petits pardons que l'on peut poser pour des actes qui ne sont pas forcément des actes terribles. Mais il y a aujourd'hui des actes terribles. Je pense qu'on peut en parler avec ce qui s'est passé au Rwanda. Donc il y a des choses quand même qui sont terribles. Et là, demander à pardonner, est-ce que c'est pas parfois insurmontable? C'est la question qu'on s'est posée.
On va essayer d'y répondre. Cécilia Duterre, pardonner, ce n'est pas toujours à notre portée. Vous racontez dans votre livre, hein, qui est bouleversant, à la fois très simple et bouleversant, votre père était très dur, un fossé s'était créé au fil du temps avec lui. Il a fallu prendre vos distances pour choisir de vivre, un petit peu ce que disait avec Sophie de Villeneuve. Et en même temps, à un moment, se pose cette question du pardon.
Oui, elle se pose, mais elle se pose très tardivement, parce qu'effectivement, c'est un récit, là, pour le coup, très autobiographique. Hein, c'est vraiment mon histoire. C'est peut-être le livre le plus intime, le plus personnel que j'ai écrit. Et je suis revenue, effectivement, sur ce passé, sur cette enfance difficile. Comment une petite fille, une adolescente, une femme, une épouse, une mère que je suis, s'est construite, en fait, face à la figure despotique et tyrannique du père. Et face aussi aux violences intrafamiliales dont j'ai été témoin. Et effectivement, avant de parler de pardon, je suis obligée de parler du cheminement, en fait. C'est tout un cheminement, le pardon, vous l'avez très bien dit, Sophie. Et donc, je reviens sur le parcours existentiel et spirituel, parce qu'effectivement, face à ce père terrestre, si j'ose dire, si peu solide et si aléatoire et si difficile à appréhender pour la petite fille que j'étais, eh bien, très vite, je me suis, quelque part, j'ai recherché dans une quête spirituelle d'enfant, hein, mais déjà quand même importante. Un père avec un grand P céleste, solide celui-ci, avec lequel j'ai essayé hein, de pallier les défaillances du père terrestre. Et ce cheminement spirituel ne m'a pas amené si facilement du tout au pardon. Et il y a eu le livre est structuré autour des étapes hein, que j'ai traversées.
Il faut du temps.
Alors, fascination de petite fille hein, devant le Démiurge, qui était ce père un peu
ogre. Oui, parce qu'au début, vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose qui cloche, que ce comportement n'est pas tout à fait normal.
Non, parce qu'une petite fille, je pense que toutes les petites filles face à leur père, la figure de l'homme en général, c'est la figure du père. Pour une enfant, je parle. Et évidemment, moi, je ne connaissais pas d'autre père que celui-ci. Donc, et puis, bon, après, l'enfant grandit et commence à raisonner et se rend compte que ce père est très chaotique. Et alors, il y a la rébellion, c'est la deuxième étape. Et puis ensuite, l'émancipation quand on est adolescente et jeune femme. Et puis, la scission, vous l'avez dit, pour construire hein, ma vie de femme, ma vie de famille aussi, ma vie de mère, pour transmettre à mes enfants aussi autre chose que ce que j'avais vécu, autre chose que ce qu'a chaos et cette violence. Et puis, beaucoup plus tard, parce que la scission dure, hein, dure des années et des années, et puis un jour, mon père meurt, il y a 4 ans. Et là, alors que ce père tenait si peu de place, pensais-je, dans ma vie, je m'écroule, je m'effondre. Et pourquoi ce chagrin? Ça m'interroge, évidemment. Et je découvre que je ne pleure peut-être pas tant sur la perte de mon père, quoique, ça me fait quand même de la peine, mais aussi beaucoup sur cette petite fille que j'ai laissée 50 ans en arrière et qui est encore blessée, quoique je le nie. Et donc, je reviens tout doucement donc sur ce passé, sur la petite fille que j'étais, mais bien sûr, évidemment, sur le père que je n'avais pas compris et qui était si peu compréhensible, il faut bien le dire. Et je cherche donc dans le livre à comprendre en fait en profondeur les causes et les conséquences de son comportement erratique, et en comprenant aussi pourquoi lui-même peut-être était si chaotique, parce que lui-même avait aussi eu une enfance très difficile. Eh bien, je reprends en fait pas à pas cette non-relation. Et alors, dans un premier temps, après la mort de mon père, pendant 1 an, c'est le chaos dans ma tête. C'est à la fois une forme de, entre guillemets, dépression, parce que le terme est un peu fort quand même, mais surtout de colère. En fait, c'est toute cette colère très chargée que j'avais niée. Revient en boomerang, elle revient dans les rêves, elle revient dans les cauchemars, où je règle, je mets des guillemets, mes comptes avec ce père avec lequel je n'ai pas parlé, et je n'ai pas non plus oralisé toute cette violence qui finalement était des deux côtés, puisque moi-même dans ce silence, il y avait une forme de violence aussi dans cette non-relation. Eh bien tout ça se purge par les cauchemars et je reprends parallèlement dans ma vie diurne la marche. Parce que je me dis, il faut que je reprenne pied. C'est vraiment le cas de le dire. Et dans cette marche méditative, je reprends aussi la prière silencieuse et cette quête spirituelle qui a toujours perduré depuis l'enfance, évidemment, mais qui s'est affermie dans ma vie d'adulte. C'est là qu'elle m'aide. C'est là qu'elle m'aide dans ce cheminement de résilience d'abord, et puis progressivement de pardon. Et c'est aussi dans les rêves que ce pardon intervient, parce que des cauchemars, progressivement, les rêves s'apaisent et je peux rêver de mon père de façon beaucoup plus posée, apaisée, calme. Même des cauchemars, je passe à des songes plus prophétiques. Je les appelle comme ça parce que c'est vrai. Mon père vient me visiter en rêve et de façon très douce. Et là, je se réinstaure, donc après la mort, une relation avec ce père, et qui revient aussi après, évidemment, dans ma vie. J'arrive à repenser à des passages avec lui qui sont plus doux. Et donc à mettre à distance, ce que vous disiez très bien, à mettre de côté cette violence pour laisser place aussi à des moments plus lumineux, il y en a eu, à comprendre aussi que ce père était tout en ombre et en lumière, comme je le suis moi-même, à comprendre aussi que j'ai peut-être été très fautive aussi de ne pas pouvoir lui tendre la main lorsque lui, en fin de vie, était fragile et malade. Donc je me fais pas non plus de cadeaux dans le récit. Je dis aussi que ma foi, et pourtant qui était très forte, qui a toujours été très forte, ne m'a pas forcément tant aidé que ça sur cette fin de parcours de mon père, ne m'a pas permis, malgré la prière, parce que j'ai demandé à Dieu cette grâce de pardonner du vivant de mon père, mais je n'y suis pas parvenue. Mais ce que je dis aussi dans le livre, et c'est là peut-être le message d'espérance et d'espoir en tout cas que j'essaie de tendre à mon lecteur, c'est de dire que la mort n'est pas, nous y croyons nous sur cette antenne justement, la mort n'est pas la fin de tout, et qu'on peut continuer à cheminer avec nos défunts après la mort, qu'on peut continuer à cheminer soi-même dans la voie de la réconciliation et du pardon. Et c'est ce témoignage-là, en fait, que je donne à la fin du livre. C'est-à-dire que le livre est très implacable au début, parce que je raconte aussi des scènes très dures. Mais il s'apaise tout au long du récit. Et sur la fin, je pense qu'il est beaucoup plus doux. Et il donne cette lumière d'espoir. Vous parliez de libération. Moi, ça m'a vraiment... C'est en fait le récit et le témoignage de cette expérience. C'est-à-dire que l'expérience est faite et j'ai pu en parler parce qu'elle est derrière moi. Et oui, je peux vraiment témoigner qu'il s'agit d'une très grande libération pour moi. Je me sens très apaisée, très calme vis-à-vis de ce père qui est finalement habité toute ma vie sans même que je j'en ai conscience, cette figure était finalement très importante. Et voilà.
Il faut dire aussi, enfin vous le racontez, hein, que effectivement il y a cette période après quand vous arrivez une fois étudiante à prendre un peu de distance, hein, ça, ce qui vous sauve entre guillemets, ou même très concrètement ce qui vous sauve. Et en même temps, vous faites quand même l'effort d'aller encore aux fêtes de famille, d'être encore un petit peu présente. Et ce père n'en démord pas. Et vous expliquez par exemple que vos premiers livres sont publiés. Il y a une forme de jalousie très vite qui s'installe de son côté. Donc, avait-il conscience de cette violence qui a été physique à un moment et qui était même relationnelle ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'en ai jamais discuté avec lui parce que justement cette prise de distance, c'était je le voyais, mais quand je le voyais, je mettais l'armure, comme je dis dans le livre, et je faisais comme si ça ne m'atteignait pas. Et en fait, je me suis rendu compte justement à sa mort que cette blessure était très profonde. Et vous parlez des livres. Alors c'est vrai que mon père avait l'ambition d'écrire. Il était traducteur et dialoguiste. Il avait énormément de talent dans son métier. Il avait très bien réussi. Mais c'est vrai que lorsque la retraite est arrivée, il avait vraiment l'ambition d'écrire. Et il se trouve que j'avais commencé, moi, à écrire et à être publiée. Et donc, j'avais quelque part failli, si j'ose dire, puisque l'écrivain de la famille devait être lui. Et au fond, c'était moi.
Vous l'avez doublé.
Et voilà. Et donc, c'est vrai que la jalousie de mon père s'est exercée dans le sens où il n'a pas lu mes livres. C'est vrai qu'il n'avait pas de soutien de ce côté-là. Et j'en étais infiniment... Ça a ravivé la blessure de l'enfance. Donc, c'était vraiment très dur pour moi. Mais en même temps, sur la fin de sa vie, il était très malade, il était très seul, et je l'ai trouvé finalement très grand face à cette fragilité. Mon père que j'avais l'impression de ne plus aimer, que j'avais l'impression de ne pas comprendre, j'ai découvert qu'il avait une faculté aussi d'accepter le réel, et un réel très dur, parce qu'il a eu une fin de vie très solitaire, il avait très peu d'amis, parce qu'il avait un caractère très dur avec beaucoup de gens autour de lui, et donc il s'est retrouvé très seul, et en fait finalement quand même très solide par rapport à cette fragilité, et ça me l'a beaucoup grandi en fait à mes yeux. J'y ai repensé après sa mort, hein, et ça m'a aussi aidé à comprendre cet homme. En fait, je pense qu'il avait eu une enfance aussi très dure, une relation très chaotique avec sa propre mère, qu'il devait donc certainement reproduire avec les femmes de sa vie, que nous étions, puisqu'il a eu deux filles, et il avait donc son épouse, avec laquelle il a fini par se séparer, mais... Ils ont eu des rapports conjugaux compliqués et j'en ai été témoin. C'est aussi intéressant la figure du père par rapport à la fille, parce que c'est aussi la figure qui va conditionner la vie amoureuse souvent d'une jeune fille, d'une jeune femme. Et donc je dis que aussi moi, dans mes premières amours de jeunesse, j'ai sans doute beaucoup réglé mes comptes avec la gente masculine en général, parce que j'étais quelque part très en conflit en fait avec la figure masculine. Mais fort heureusement, j'ai rencontré mon mari, qui est celui qui est devenu mon mari et qui l'est toujours d'ailleurs, 30 ans plus tard, et qui est l'exact contraire de ce père. Comme quoi, le père peut être un repère ou un contre-repère, mais finalement, c'est toujours quand même face à cette figure que l'on se construit.
Sophie de Villeneuve, le témoignage de Cécilia Duterte est touchant, émouvant.
Oui, il est très beau. Moi, j'ai beaucoup aimé son livre et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'ai voulu qu'elle témoigne dans notre dossier sur le pardon. Ce qui aussi m'a touchée et me dit que ça peut concerner tellement de gens autour de nous, c'est que le père de Cécilia n'était pas du tout conscient. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que
il était lui-même enfermé dans son armure
et ses souffrances certainement, et que c'est très difficile de faire du mal à quelqu'un sans en être vraiment conscient. Et ça, c'est peut-être aussi une des formes de pardon le plus difficile à donner, quand quelqu'un ne vous demande même pas pardon. Et si on le lui reproche, ne comprend pas ce qui se passe et ne veut pas voir le mal qu'il vous fait, je pense que le pardon est très difficile à donner. D'ailleurs, Cécilia ne l'a pas donné au cours de la vie de son père, elle lui a donné après la mort de son père. Hein. Ça a été encore un chemin bien plus long qu'on peut l'imaginer, mais ça n'empêche pas que le pardon... apparemment, il est là, en tout cas, et que la libération aussi. Donc, ça prouve que le pardon peut prendre diverses formes et peut aussi intervenir après la mort de la personne.
Le pardon, c'est aussi une question collective, Benoît Guillou. Alors, je rappelle simplement que vous avez travaillé beaucoup autour de la question du Rwanda et du génocide. Ce pardon, il s'est construit petit à petit au Rwanda. Alors, allez, rappelez-nous déjà un petit peu la situation, comment les choses ont pu évoluer et comment enfin cette piste du pardon a pu s'ouvrir. C'est beaucoup de choses en peu de temps, hein, mais bon, on vous écoute.
Donc de mon côté, moi j'ai travaillé sur les discours et les pratiques du pardon après le génocide au Rwanda. Mais c'est
au préalable. Vous êtes sociologue, hein,
voilà,
j'ai oublié de le rappeler
les outils de la sociologie que j'ai voulu le faire. Donc j'ai basé mon enquête, je suis allé 5 fois au Rwanda en l'espace de 10 ans. Mais à préalable, je voudrais dire comme c'est très particulier, hein, quand même de convoquer cette question du pardon après un génocide. Parce que d'une manière générale, les tueurs ne reconnaissent pas leurs crimes. D'une façon générale, ils se réfugient plutôt dans des stratégies de dénégation, dans le mensonge, ou alors ils vont avancer l'argument « j'ai obéi aux ordres ». Ensuite, si on regarde la question du pardon du point de vue d'une victime, d'un point de vue purement humain, est-ce que c'est envisageable de convoquer cette question du pardon ? À plus forte raison, un pardon sans condition. Et malgré tout, comme le disait tout à l'heure Sophie, ben, il y a des situations, malgré l'irréparable, il faut chercher des linéaments, des bouts de réponse pour apprendre à vivre ensemble, pour se réconcilier, je ne sais pas, mais en tout cas, trouver les conditions d'une cohabitation pacifique. Donc d'abord, je dirais en guise d'introduction, après un crime de masse, des violences extrêmes, je crois qu'il y a, deux piliers, il y a deux axes sur lesquels il faut travailler. D'une part, la justice. Parce que les victimes d'un génocide ont le droit à la justice, elles ont le droit à la vérité. Et d'autre part, il y a des mécanismes non judiciaires. Donc c'est par exemple la commission Vérité et Réconciliation, la fameuse commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud. Mais là aussi, et notamment au Rwanda, moi j'ai voulu donc travailler sur le rôle des acteurs religieux dans un processus de paix. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai voulu travailler sur la question du pardon. Alors personnellement, je ne vous cache pas, j'étais très très surpris parce qu'à l'époque je travaillais à Amnesty International. Amnesty, on a un credo, après des crimes de masse, il faut la justice. Mais simplement, la justice, quand elle marche, elle permet de juger les gros poissons. Comment faire au Rwanda, en 94, en l'espace de 3 mois, plus de 800 000 Tutsis ont été massacrés parce qu'ils étaient nés Tutsis, des hommes, des femmes, des enfants, après des décennies de massacres et de pogroms en toute impunité. Et donc, ce qui m'a surpris, c'est que donc au Rwanda, le lendemain du génocide, le mot d'ordre, c'était la justice. Il faut juger les criminels. Mais paradoxalement, 10-15 ans plus tard, le langage du pardon est omniprésent. Au Rwanda, la rhétorique du pardon est omniprésente. Elle a pris une ampleur sans précédent dans l'histoire du pays. Donc c'est ça, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui est un peu
intriguant. Presque dans l'histoire des hommes, hein, parce que vous parliez de l'Afrique du Sud, il y a le Rwanda.
Ben oui,
et finalement, il y a très très peu de pays où on arrive
bon, alors
à
après,
ce
il y a
chemin.
Le discours, il y a la théorie, et qu'en est-il dans la pratique?
Allons-y.
Donc
dans la pratique,
temps,
notamment, vous avez travaillé sur un village, hein, déjà aussi,
voilà.
Le village de Moucha.
Tout à fait.
Vous avez vu les personnes. Écoutez,
c'est fondamental. Moi, j'attire sur les discours et les pratiques. Tout d'abord, donc, la rhétorique est omniprésente. Le pardon, c'est une notion qui est convoquée par des acteurs extérieurs. Jean-Paul II, Desmond Tutu. Mais au Rwanda même, c'est le chef de l'État qui parle du pardon. Enfin, on est au Rwanda, on est en Afrique. Des journalistes et naturellement des représentants de l'Église catholique, protestante, etc. Donc, il y a une multitude d'acteurs très différents qui parlent du pardon. Et chacun, excusez-moi l'expression, un peu à sa sauce. Donc moi j'ai pour
pas
travailler
la même chose
ensuite,
bah
voilà,
mot.
En fonction du contexte qu'on attend, etc. Donc moi j'ai mené une enquête dans un petit village, une bourgade qui s'appelle Moucha, qui se situe à 50 km à l'est de la capitale. Et là donc 10 jours après le dimanche de Pâques, près de 6000 Tutsis ont été massacrés dans l'église. Et les massacres n'auraient pas été aussi rapides et aussi massifs sans une participation active de simples paysans hutus.
De complicité.
Voilà. Donc,
collective.
Je fais plusieurs séjours et à chaque fois, je passais entre 1 mois, 2 mois, parce que enquêter sur la question du pardon, que ce soit dans le cadre de Cécilia ou dans un cadre collectif, ça relève de l'intime, voire du secret. Donc, petit à petit, il faut se faire adopter, il faut avoir des médiateurs. Et j'étais très marqué par la figure du curé de Moucha, le père Nicodème. À l'époque, il avait 70 ans. En 94, ce père Tutsi, on a tué toute sa famille. Sa mère était alitée, elle était tuée dans son lit. Je crois qu'il lui reste simplement une nièce. Le curé revient dans cette paroisse de Moucha, quelques mois après le génocide, et il sonne la cloche. Il réhabilite cette église, il y a encore des traces de sang sur les murs, enfin, etc. Il faut changer la toiture. Donc petit à petit, ce curé adopte une pastorale classique. Et petit à petit, avec des fidèles, il va mettre en place des dispositifs pour inviter à revisiter le passé. Mais ce que je dirais, mener une enquête sur la question du pardon, je vous cache pas, au début c'était quand même très difficile. C'est quoi le pardon, tout simplement? C'est quoi le pardon? On en parle depuis une demi-heure, mais le pardon, c'est ni l'oubli, ni le regret, ni la compassion, peut-être un peu d'étroit. Moi, en tout cas, sur le terrain, j'étais confronté à une double difficulté. Je dirais que le pardon, c'est comme l'amour. Le pardon et l'amour, ce sont des notions polysémiques. On peut mettre tout et n'importe quoi derrière ces notions-là.
Chacun l'entend
un peu à sa façon.
À sa manière.
Moi, je n'aime pas trop parler du pardon, je préfère parler des pratiques du pardon, je préfère parler des gestes d'amour. Mais ce sont des notions polysémiques facilement instrumentalisées ou galvaudées. Et la deuxième difficulté, comme sociologue, ok, moi je vois le prêtre, je vois des fidèles qui me parlent du pardon, et puis j'ai pu avoir de beaux témoignages. Mais la deuxième difficulté du pardon, c'est comment on inscrit le pardon dans la pratique. Le pardon, c'est de la dynamite. Moi, je vous dis pardon aujourd'hui, mais demain, comment inscrire cette question dans le temps? Donc, c'est les deux questions.
Qu'elle change la vie relationnelle, finalement.
Idéalement, voilà.
Eh bien, on va en parler. On va continuer à en parler après la musique. Johnny Hallyday chante Pardon, oser le pardon, c'est le thème de Grand Angle aujourd'hui sur RCF avec Sophie de Villeneuve, Cécilia Duterre et Benoît Guillou.
RCF, Grand Angle, présenté par Christophe Hénin.
Benoît Guillou, vous nous rappeliez que le pardon, c'est pas si facile que ça, ça a des dimensions différentes selon les personnes qui l'abordent et vous parlez davantage de pratiques du pardon, c'est-à-dire comment ça se concrétise pour les différents acteurs, notamment au Rwanda, puisque c'est ce sujet que vous avez travaillé comme sociologue en étant sur le terrain, à l'écoute des Rwandais.
Donc une des particularités aussi du Rwanda, donc en 94 on a ce génocide, mais le Rwanda est un petit pays de la taille de la Bretagne, 4 départements. Donc, c'est-à-dire que victimes et bourreaux, on se côtoie au quotidien, sur les sentiers, au marché, à l'église, au temple. Donc, la mémoire est sans arrêt réactivée. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de très particulier. On n'a pas d'autre choix. En ville, on peut avoir des stratégies d'évitement, si on est plus riche, ou même à la limite, on part à l'étranger. Mais dans le milieu rural, on se côtoie au quotidien. Donc, petit à petit, enfin, puis j'ai pris 10 ans, hein, il faut prendre le temps. Les entretiens durent en moyenne 3 heures, je reviens, etc. Enfin, je fais du formel, de l'informel. Mais ce que j'ai pu constater, malgré tout, malgré les difficultés à l'échelle de cette bourgade de Moucha, tout d'abord, au niveau de l'église paroissiale, je dirais que les gens, lorsqu'ils sortent de la messe, ils se regardent en chien de faïence. On sent bien que la situation est difficile. A priori, tout va bien, mais on voit bien que quand même dans le cœur, enfin, il y a quelque chose qui passe pas. Enfin, la peur, la haine, enfin, il y a un passé quand même qui est très dur à digérer. Pour les victimes, souvent le rapport entre le passé, le présent et l'avenir ne marche plus. Beaucoup de victimes sont encore dans cette mémoire ruminante, paralysante. Comme disait Paul Ricoeur, le problème avec la mémoire, c'est les maladies de la mémoire, quand il y a trop de mémoire ou pas assez de mémoire.
Là, celle-là reste à vif.
Et celle-là reste à vif. Alors, ce que j'ai pu constater quand même, c'est pas tellement au niveau de l'église paroissiale de Mouchat, mais c'est dans les micro-communautés, dans les chapelles. J'ai enquêté là dans un coin perdu au pied d'un lac, à 2 heures à pied, il n'y a pas de transport en commun. Et là, j'ai passé beaucoup de temps avec des fidèles, des gens qui sont engagés. Et j'ai pu constater trois choses qui me paraissent importantes. Le clergé et un certain nombre de personnes, au nom de leur foi, petit à petit, d'une part, ils arrivent à dépolariser la situation, ou ils essayent de dépolariser la situation. Ce que je veux dire par là, c'est d'accueillir les victimes, les aider, mais aussi contenir leur souffrance, enfin les aider à ne pas s'enfermer dans le statut de victime, enfin faire un travail sur soi-même. Et d'autre part, à l'échelle de ce village, quand je parle de dépolarisation aussi, c'est inviter les tueurs ou la famille des tueurs à engager un travail sur soi-même et assumer la gravité de la responsabilité, à se repentir, donc si je reprends le jargon chrétien, parce qu'il y a le pardon de la victime, et il y a la demande de repentance, la confession auriculaire. Donc ça, c'est une première chose. Dans certains cas, avec le temps, hein, c'est 10, 15, 20 ans, c'est contribuer à dépolariser la situation. Secondo, notamment à l'échelle des petites communautés ecclésiales de base, dans certains cas et à certaines conditions, on arrive à réhabiliter la parole. Réhabiliter la parole pour petit à petit instaurer un compromis. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je vais laisser un espace pour que tu puisses vivre. Mais ce n'est pas rien, hein, on est dans le champ politique. Hein, et ça, il faut du temps. Et alors, ce qui est intéressant, c'est le troisième aspect, c'est que dans certains cas, notamment c'est des relations de voisinage, hein, des gens qui se réunissent régulièrement, discrètement. Et de temps en temps, ces petites communautés, souvent très féminines, elles sont 10-12, on réhabilite la parole. Petit à petit, la parole circule, on réhabilite l'écoute, des gestes de solidarité, lorsque j'ai un enfant malade, lorsqu'il y a un pic d'activité agricole. Et dans certains cas, c'est un peu ce que je fais dans mon livre, je décris des scènes de pardon, ça arrive. Pardon, parfois on convoque cette notion, alors ça peut être une victime ou un tueur. Et je pense, bon là j'ai plein d'exemples, hein, j'ai décrit une vingtaine de scènes de pardon dans le cadre de cette enquête. Mais aujourd'hui encore, je pense souvent à Zaverine. Donc Zaverine est une paysanne, Tutsi. En 94, on a tué son mari et ses garçons. Donc là, elle a pris sa fille sur le dos et puis elle a fait une tentative de suicide, elle m'explique. Mais avant de se rendre au lac, elle a croisé en chemin une voisine qui a dit « Écoute, je comprends ton état d'abattement, mais confie-moi ton enfant ». Elle raconte ce suicide et en fait, par noyade, c'est pas évident de se... Donc elle passe par une phase qui va durer plusieurs mois de découragement total. Elle peut plus aller prier, hein, parce que dans cette église, on s'est massacré. Mais après, il y a un temps d'eux, elle va fréquenter des groupes du renouveau charismatique, elle va faire des retraites et petit à petit, elle va pleurer, elle va crier, elle va avoir ce temps de la colère, mais elle va aussi trouver dans sa foi des ressources pour essayer de pardonner. À nouveau, il faut du temps. Mais ce qui est très beau, il y a les discours de pardon, mais chez Zaverine, non seulement elle essaye de pardonner, mais son changement comportemental va changer, c'est-à-dire qu'elle va peut-être fréquenter un peu moins souvent les associations de victimes et elle va aller en prison voir les familles de détenus. Mais ça, ça demande des ressources psychologiques, spirituelles, hors du commun. Mais c'est un très très beau récit. Enfin, moi, et Zaverine, finalement, à travers ce changement comportemental, finalement, elle crée les conditions pour qu'un jour, Karinda vienne s'adresse à elle. Karinda, c'est un voisin qui habite à 10 minutes à pied. Il lui dit, écoute, maman Zaverine, il faut que je te voie. Et un jour, donc, Karinda, qui avait 18 ans en 94, a expliqué, ben, écoute, c'est moi qui ai tué ton enfant. Et voilà comment j'ai fait. Il a levé les bras et je l'ai tué. Donc, j'ai essayé de relater ce type de pratique du pardon. Mais après, j'ai travaillé sur la question du pardon en prison ou sur les collines. Et j'ai bien vu qu'il arrive, hein, c'est fréquent aussi que le pardon soit instrumentalisé, ou comme vous le disiez tout à l'heure, enfin, c'est un peu une injonction, un commandement. Parfois, les autorités politiques ou religieuses vont dire « il faut pardonner ». On sent bien quelque chose qui sonne faux. En revanche, moi, ce que j'ai pu constater sur le terrain, à l'échelle de cette paroisse, c'est que le langage du pardon, lorsqu'il est en prise avec la réalité, je dis bien en prise avec la réalité, hein, parce que souvent le langage du pardon, c'est un peu lénifiant, c'est un peu angélique, enfin voilà, ça reste dans le domaine des généralités. J'ai pu voir dans certains cas, certaines conditions, que le langage du pardon en prise avec les réalités, eh bien ça permet d'engager un processus. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, hein, c'est un processus fragile, vagabond, mais ça permet de petit à petit de faire avec et d'apprendre à vivre avec l'irréparable.
Sophie de Villeneuve, le témoignage de Benoît Guillou est
oui,
passionnant.
Passionnant, très impressionnant. Alors c'est vrai que là, on est dans un état de paroxysme, si vous voulez. C'est vrai que le pardon, dans ces cas-là...
D'une extrême violence.
D'une extrême violence. Donc, c'est pas nos petits pardons tous les jours qu'on a à faire, mais c'est là où le pardon vraiment nous interroge. Hein. Et moi, j'aimerais revenir sur ce que dit
Benoît Guillou.
Benoît Guillou. Il y a un film, il n'y a pas très longtemps, qui est passé. Un documentaire sur les enfants rwandais issus de viols, et on voit combien tous ces enfants sont perturbés aussi. Voilà, il y a aussi à cette génération-là certainement un travail psychologique à faire, parce que certains sont bien sûr à l'écart de leur communauté, de leur famille, puisqu'ils sont issus de viols perpétrés sur leur mère et qui sont donc les fils de tueurs et de violeurs. Donc pour eux c'est difficile. Mais je retiens de ce film aussi, je retiens quelque chose qui est important, c'est le dialogue entre un père Hutu, donc qui a été parmi les tueurs, et sa fille, qui découvre que son père a été un tueur, a fait de la prison, et il découvre peu à peu pourquoi ces enfants-là, pourquoi leur père est en prison, pourquoi ils ont fait de la prison. Et cette espèce de regard de la fille sur son père fait prendre conscience au père de toute sa violence et de tout le mal qu'il a pu faire. Et là, je pense aussi que c'est important que les tueurs, dans ces cas-là, que prennent conscience de ce qu'ils ont fait. C'est très difficile. C'est pour ça d'ailleurs que
depuis le début de l'émission, on parle surtout du pardon
par la victime.
Or, c'est aussi l'agresseur qui peut ou qui devrait demander pardon.
C'est ça. Et alors, on a voulu nous essayer de se mettre de ce côté-là en ayant l'interview d'un aumônier de prison qui fait de la justice restaurative, ce qui est très intéressant.
J'allais y venir, parce que là aussi, il y a cette question de justice et de pardon dont parlait Benoît Guillou.
Comme il est en prison.
Quelques mots sur la justice restaurative.
Alors, c'est très beau aussi, c'est très intéressant. C'est une façon de faire se rencontrer en prison, hein, c'est pas tout à fait pareil, des victimes et les personnes qui leur ont fait du mal. Donc, en général, c'est pas un petit mal bénin. C'est quelque chose de grave. Et cette rencontre, qui a lieu sur plusieurs... Avec du temps, bien sûr. Ces plusieurs rencontres font en sorte que, finalement, la personne victime se rend compte que son bourreau est quelqu'un d'à peu près normal, entre guillemets. Et surtout, la personne en prison se rend compte du mal, peu à peu, qu'elle a fait.
Qu'elle a pu causer.
Des ravages que ça a pu causer dans une famille, auprès de personnes. Peu à peu, il y a une rencontre qui se fait. Alors, ça n'aboutit pas forcément sur une demande de pardon, parce que c'est quelquefois très difficile, mais au moins c'est un chemin que font à la fois bourreau et victime.
De confrontation.
Confrontation. Et je crois que ça, ce sont des processus très intéressants.
Mmh. Voilà. Développé surtout au Canada et qui commence à arriver en pratique.
Qui commence à arriver en France.
Et donc, Brice Démier, aumônier... de la Fédération protestante à la prison de la santé en parle très bien dans la revue Croire.
Voilà, dans la revue Croire. Il y a aussi ce témoignage d'Alpha Kaba, peut-être que certains l'ont vu aussi à la télévision, qui est un journaliste de la Daguinée, qui a été donc, qui a voulu, c'est vraiment le circuit habituel. Il est tombé au Libye, il a été vendu comme esclave, il a passé de longues années réduit en esclavage sur des chantiers libyens, et puis il a fini par pouvoir traverser la mer et être réfugié en France. Et il dit que finalement, sur place, il s'est aperçu que s'il ne voulait pas être pétri de haine et mourir de haine, il fallait qu'il change sa haine en amour. Et que pour lui, ça a été tout un chemin. Il est musulman. Et qu'aujourd'hui, ça l'a sauvé en quelque sorte de tous ces souvenirs abominables.
Mmh. Cécilia Duterte, vous l'avez raconté dans votre livre, hein, j'y reviens, ce long chemin pour arriver au pardon, donc c'est un pardon, j'ai presque envie de dire tout frais par rapport à toutes les années passées. Le pardon, il va changer forcément ce lien que vous aviez au père. Il vous change aussi dans votre vie relationnelle, j'ai presque envie de dire quotidienne.
Oui, bah moi c'est vrai, ça a vraiment été une libération, une guérison, vous en parliez tout à l'heure. C'est un acte volontaire en fait, c'est un choix le pardon, c'est aussi la volonté de, c'est un dessaisissement en fait. On abandonne des griefs qui ont existé, on ne les efface pas, on ne les oublie pas, on les abandonne, on les laisse sur le chemin pour tenter de renouer un dialogue et même avec un défunt apaisé en fait, c'est-à-dire que quelque part on laisse le passé de la faute derrière soi pour ouvrir un nouveau champ relationnel. Alors effectivement, ça paraît très simple, ça ne l'est pas. Moi, je pense que j'ai pu le faire vraiment parce que mon père était mort et parce que il ne ravivait pas par son comportement, puisqu'il était dans le déni, vous l'avez dit. Il était beaucoup dans le déni et il n'était pas justement dans le... il ne s'est jamais excusé de quoi que ce soit. Je ne sais même pas s'il était tout à fait conscient de l'abîme des blessures qu'il nous a infligées. Mais justement, le fait qu'il soit mort, ça met un terme forcément à cette relation terrestre. Mais le chemin continue et justement, il est beaucoup plus simple peut-être à faire dans ce contexte-là. Mais il se fait, voilà, il se fait. Et j'en ai été moi-même très étonnée. En fait, ce livre aussi, c'est je relate une expérience qui m'a moi-même surprise. Je ne pensais pas qu'on pouvait continuer à cheminer à ce point-là, soi-même en fait. Je pense que c'est un cheminement intérieur. Hein. De toute façon, le pardon, c'est un cheminement intérieur de bout en bout. Mais voilà, qui est beau et qui est très libérateur, qui est infiniment libérateur.
Ce chemin intérieur, hein, Sophie de Villeneuve.
Oui, allez-y. J'aime bien ce mot que vient d'employer Cécilia et qui rejoint celui d'Alpha Kaba. À un moment donné, on a le choix, on fait un choix. C'est de l'ordre de la décision. Voilà. Et à ce moment-là, au bout de ce chemin, on prend la décision de pardonner. Ce qui ne veut pas dire qu'on oublie le mal qui a été fait. Ça, je pense que c'est important quand même de le dire. On n'oublie pas. D'ailleurs, le commandement de Jésus n'est pas d'oublier le mal qui vous est fait, c'est de pardonner. C'est pas tout à fait la même chose quand même. Mais voilà, il y a un moment donné où les choses se font. On peut faire on peut décider de pardonner.
They saw the tall ships coming, and they stood still upon the shore. When gunfire came, they started running, but they'd taken 25 or more. A dark baby cried for a mama, but she just lay beside her still. Like refugees in their own land, and not being ready for the kill. And we can all be sorry for things we've done, and we're all in the same boat from day one. And that that has happened, let it stay behind, and we'll all stand together in the setting sun. But not all the white men were hunters.
Paul Jones chante Stand Together, Oser le pardon, c'est le thème de Grand Angle aujourd'hui sur RCF avec Sophie de Villeneuve, Cécilia Duterre et Benoît Guillou.
RCF, Grand Angle, présenté par Christophe Hénin.
Pardonner sans oublier et aussi passer par la justice, Benoît Guillou. Alors on l'a déjà dit, mais je crois que dans ce qui s'est passé au Rwanda, c'est aussi une des clés importantes pour l'avenir, non seulement du pays, mais des personnes elles-mêmes.
Oui, tout à fait. Hein. Ce rapport pardon-justice est essentiel. Mais peut-être dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, moi, sur la base de mon enquête au Rwanda, je dirais qu'il y a de faux pardons, il y a de vrais pardons.
Alors,
il faut être vigilant.
Comment on est, oui,
et
comment
je pense qu'un vrai pardon suppose
sont les critères
un travail du sujet sur lui-même. Un vrai pardon suppose un travail du sujet sur lui-même. Pour la victime, pardonner, c'est sortir de l'état de sidération, c'est essayer de s'extraire du passé, c'est renoncer à tout comprendre, enfin j'ai pu voir ça, essayer de comprendre mais renoncer à tout comprendre, c'est privilégier le temps présent ou un temps eschatologique pour un croyant. Enfin voilà, donc c'est tout un long travail. Mais pour le tueur, pardonner, c'est sortir de la dénégation. Enfin, je rappelle, le pardon, dans une perspective chrétienne, c'est un acte conditionnel. Donc, pour le tueur, c'est un travail. Il faut faire un travail sur soi-même, énoncer la gravité de son acte, s'engager à ne pas recommencer, à réparer dans la mesure du possible. Donc, c'est une vérité autobiographique qui représente un coup. Enfin, voilà. Donc, c'est un vrai pardon, c'est un travail sur soi-même. Ensuite, se pose la question de l'articulation très difficile du rapport entre le pardon et la justice. Et de fait, le pardon n'appartient pas au registre de la justice. Le pardon est de l'ordre d'un don incommensurable. Et pourtant, pardon et justice ne sont pas deux termes étrangers. L'un et l'autre sont en tension. Alors peut-être, moi j'ai pu voir au Rwanda, à titre individuel, il arrive, mais c'est très rare, qu'une victime puisse pardonner à titre volontairement et renoncer à la justice. C'est vrai que dans la perspective évangélique, il y a un caractère un peu radical. Maintenant, au niveau collectif, le pardon de Dieu n'efface nullement la responsabilité individuelle et le travail de la justice. Et notamment les orientations de Jean-Paul II, après les attentats de 2001, toutes ces orientations qui ont été commentées au Rwanda, Jean-Paul II nous invite à réfléchir sur cette dialectique entre la justice et le pardon. Mais le pardon, en aucun cas, n'est le refuge des génocidaires, des pédophiles et des brigands.
Ça, c'est important, il faut le dire. Et il faut, vous le disiez à l'instant aussi, il y a cette démarche très personnelle qui engage la personne dans cette façon de peut-être de se convertir au pardon. Je ne sais pas si on peut aller à dire jusque-là. C'est Daniel Mergura dans la revue Croire qui dit qu'un très grand saint qui n'a jamais péché, si ça existe, un saint qui n'a jamais péché ne sera jamais aussi près de Dieu qu'un pécheur repenti. Sophie de Villeneuve, il y a cette démarche. C'est là où c'est choisir la vie, peut-être.
Oui, alors là, on se place du côté du pécheur. Enfin, oui, bien sûr, qui demande pardon, en fait. On le voit bien, c'est que demander pardon, pardonner, c'est très difficile, mais demander pardon, c'est aussi
reconnaître sa faute,
reconnaître qu'on a fait du mal. C'est comme vient de le dire Benoît, c'est pour des tueurs par exemple, ou pour des personnes qui ont gravement fauté, c'est un chemin de remise à distance de son acte, de le reconsidérer, de voir ce qu'on a fait, de voir le mal qui a été fait. C'est tout un chemin qui est un chemin de conversion. C'est pour ça que c'est un chemin, Marguerite dit que c'est celui-là qui sera peut-être le premier à rentrer dans le royaume, mais Jésus l'avait déjà dit à
son
époque, bien sûr. Voilà, le larron, le premier quand même sauvé, c'est quand même le larron, qui ne devait pas être un enfant de cœur. Mais il a reconnu sa faute. Et je ne pense pas que ce soit si facile que ça. C'est ce qu'on voit peut-être au Rwanda ou dans des circonstances semblables.
C'est aussi... il y a toujours un atelier spirituel, vous appelez
oui.
ça l'atelier spirituel,
oui.
des pistes un peu pour
oui.
avancer soi-même à partir du dossier que vous avez pu écrire. Et il y a Simone Paco que
ben
vous
oui.
reprenez
oui.
avec beaucoup de pistes simplement sur cette démarche qui est finalement la démarche intérieure dont nous parlait Cécilia Duterte tout à l'heure.
Tout à fait. Donc Simone Paco, je pense que beaucoup de personnes la
connaissent.
Voilà, c'est le fameux livre L'évangélisation des profondeurs où elle nous invite à travers des passages de l'évangile finalement à opter pour une guérison intérieure de tout ce que l'on peut remettre dans les mains de Dieu quand on se sent pas bien, justement, quand on a subi des souffrances, comme le vient de raconter Cécilia, donc revisiter bien sûr son histoire, ses émotions, ses représentations de Dieu aussi, pointer les désordres qui ont abîmé nos relations, pointer tout ce qui en nous fait mal aussi à l'autre, pointer le mal qu'on a subi. Enfin, tout ça peut se faire ensemble, en groupe, dans des sessions particulières que proposait Simone Paco. Et je pense que pour certains qui ont des choses graves, peut-être des choses importantes dans leur vie à éclairer, que ces sessions ne sont loin d'être inutiles et que la guérison intérieure dont elle parle bien d'ailleurs, qui ont apporté beaucoup de paix certainement à beaucoup, ne sont pas inutiles. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi des cercles du pardon. Il y a beaucoup de choses dans le cahier croix.
Et puis sacrement de réconciliation, mais ça faudrait.
Bien sûr, mais ça c'est encore une autre émission.
Une autre émission, voilà. Cécilia Duterte, vous l'avez dit, le pardon c'est long, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Avant ça, je suis aussi surpris, je trouve ça très très beau dans votre livre. Il n'y a pas cette tentation de riposter systématiquement à la violence par la violence.
Ça, c'est plus par tempérament, mais c'est-à-dire qu'il y a une
face à la violence, on peut aussi réagir comme ça.
En même temps, il y a une grande violence dans le silence, vous savez. Finalement, dans la non-relation que j'ai instaurée aussi, moi, de mon réciproquement, il y a c'est une très grande violence. Et je m'en suis rendu compte en écrivant le livre que moi-même, c'est une non-violence qui est violente. En fait, le silence, c'est terrible. Ça rompt complètement la possibilité.
Il fallait aussi vous sauvegarder. Je veux pas
absoudre,
mais
bien sûr, non, mais c'était un réflexe de protection, bien sûr. Mais je voulais revenir juste sur une chose. C'est vrai que la mise en mots des mots MAUX, c'est très important. Et c'est vrai que le travail d'écriture le permet, mais la prière le permet. Le cheminement intérieur, c'est aussi se remémorer effectivement les blessures, mais les mettre aussi à distance. Par la transcendance, par le fait de les transcender en Dieu, demander à Dieu aussi de l'aide. Moi, j'ai beaucoup demandé. Alors, c'est pas venu au moment où je l'avais demandé, mais c'est venu plus tard. Comme quoi, voilà, les voies
là
de
aussi,
Dieu sont
impénétrables.
Bien sûr,
long.
Le temps, c'est extrêmement important. C'est prendre patience avec soi-même aussi. Et Dieu nous aide. Moi, je crois vraiment aux forces très importantes qui m'ont été envoyées au moment où j'en avais le plus besoin, au moment où j'étais au fond du trou. C'est là que tout d'un coup, dans cet espace, un peu des précieuxgènes, est venue l'aide divine, la grâce, d'abord de l'apaisement et puis d'une forme de paix, voilà, c'est ça, retrouver, et puis à l'intérieur de cette paix, de tendre la main vers le pardon.
Benoît Guillou, on arrive au terme de l'émission, mais simplement, ce terme d'apaisement, est-ce qu'on peut le prononcer pour le Rwanda? Est-ce que justement, il y a cette force à ne pas riposter à la violence?
Alors, je sais pas, en guise de conclusion, je dirais que l'Église met beaucoup l'accent justement sur le pardon agapé, enfin ce pardon inconditionnel, incommensurable. Moi, j'ai pu décrire quelques pardons de ce type. Il est ultra minoritaire, il n'a pas une portée symbolique, hein, mais au contraire, il nous invite à penser. Cela dit, dans le cas de mon enquête, moi j'ai vu beaucoup de pratiques du pardon qui sont de l'ordre de la réciprocité. Des dispositifs qui sont mis en place, qui prennent du temps et qui contribuent à faire émerger une parole, qui contribuent à faire émerger une parole, une vérité partagée. Et fondamentalement, moi je dirais que dans certains cas, certaines conditions, j'ai pu voir que le pardon était une ressource. Mais c'est pas rien une ressource, hein, un point d'appui. C'est-à-dire que dans certains cas, certaines conditions, le pardon apparaît comme une ressource à titre individuel et collectif pour voir et agir autrement, afin de surmonter au mieux l'irréparable.
Ce n'est pas un point final, le pardon, c'est une dynamique.
C'est ni un acte magique, ni un point final. Enfin. Non, c'est vraiment un travail convoque l'individu dans sa globalité, le sensible, l'entendement. Je dirais que même pour comprendre le pardon, c'est un peu comme le don. Enfin, Marcel Mauss, qui a théorisé la question du don, il dit « Le don, il faut dépasser les catégories individuelles, collectives, il faut dépasser le champ politique, religieux, économique, il faut le prendre dans sa globalité. C'est un fait social, global. » Je crois que le pardon, c'est la même chose. Si on veut l'appréhender, le décortiquer un peu, essayer de le comprendre, ça reste quelque chose de mystérieux, mais il faut le prendre dans sa globalité.
Du don au pardon, eh bien, il faut oser le pardon. Merci à tous les trois pour cette émission Grand Angle. Je rappelle vos ouvrages La Loi du Père, le très beau livre de Cécilia Duterte paru aux éditions du Cerf il y a quelques semaines. Le pardon est-il durable? Enquête au Rwanda de Benoît Guillou paru aux éditions François Bourin. Et puis les cahiers croire donc. Le pardon, choisir la vie, le prochain sujet pour cet été, ce sera...
Alors le prochain sujet, ça va être un sujet sur la providence.
Eh bien voilà, la providence. Qui pourra peut-être nous donner un sujet aussi d'émission. Merci à tous les trois, merci à Pierre-Henri Paget qui était à la régie. Grand Angle, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.